Alors ce soir, nous vivons cette veillée au coin du feu pascal pour écouter les histoires de nos grands-parents. Ce sont toutes les lectures que nous avons entendues et qui sont les grands moments de l'histoire du salut, qui est notre histoire familiale. Nous sommes ici en famille. On a repris avec joie les chants comme on chante parfois justement dans nos veillées familiales. Vous voyez, ces lectures, nous les avons lues à la lumière d'aujourd'hui. C'est la lumière du Christ ressuscité. Aujourd'hui, le Christ est ressuscité d'entre les morts. C'est ce que nous dirons tout à l'heure dans la liturgie. Tous ces événements, tous ces grands moments de l'histoire du salut ont été réactualisés par ce mystère de la résurrection. Et voyez, pour cela, nous avons placé à côté de l'ambon le cierge pascal qui représente la lumière du Christ ressuscité. Et voyez, nous l'avons placé un peu plus haut. Il surplombe tout ce que nous vivons ce soir à travers cette vigile pascale. Et cette histoire que nous avons reprise, eh bien justement, elle a pris du temps. Nous avons pris notre temps pour reparcourir toutes ces étapes. Pourquoi nous avons pris notre temps? Parce que Dieu a le temps. Dieu est patient. Il prend le temps comme atout et il se révèle par étapes. Et toutes ces étapes parlent de la résurrection. Toutes ces étapes annoncent la résurrection, sont une prophétie de la résurrection et convergent vers ce point focal de la résurrection qui est l'ultime révélation de Dieu. Vous voyez, dans la Genèse, Dieu se révèle d'abord comme créateur. Il créa le ciel et la terre. Il créa les astres, les plantes, les animaux. Et puis il créa l'homme à son image. Et tout cela annonce une nouvelle création, une recréation, la résurrection. C'est proprement la résurrection. À la création, Dieu fait surgir l'être et la vie du néant. Les théologiens diront, c'est une création ex nihilo, à partir de rien, à partir du néant, Dieu fait surgir la vie. Et à la résurrection, il fait jaillir de la mort la vie éternelle, de celui qui est mort, la vie qui n'aura pas de fin, la vie qui est plus forte que la mort. Nous étions plongés jusque-là dans la nuit des ténèbres de la Passion. Et je pense à cet événement qui a marqué la mort du Christ sur la croix, c'est cette éclipse solaire. Comme pour dire, voyez, les astres qui ont été créés par Dieu participent de cette recréation. Et au cœur de ces ténèbres, au cœur du tombeau, Dieu parle à nouveau et dit « Que la lumière soit et la lumière fut ». Et la lumière de la résurrection a dissipé les ténèbres du péché et de la mort. Et Dieu recrée les astres, Dieu recrée la lumière, et il sépare la lumière des ténèbres. Quand Jésus sort du tombeau, il fait jour. Au matin de Pâques, nous sommes dans ce nouveau jour, et ce nouveau jour, c'est Jésus. Jésus est le nouveau jour de Dieu. Il y a un avant et un après Jésus. Il y a un avant et un après la résurrection, comme il y a un avant et un après notre baptême qui nous branche sur cette grâce et ce mystère de la résurrection. La résurrection, elle ouvre tout un monde nouveau. Saint Paul dira aux Corinthiens, si quelqu'un est dans le Christ, c'est-à-dire plongé dans le mystère de sa mort et de sa résurrection, il est une nouvelle création. Voilà, c'est la première étape que Dieu nous propose ce soir. La deuxième étape, c'est le livre de l'Exode qui nous le donne et qui nous montre un Dieu qui se révèle comme un sauveur. Le peuple est encerclé par l'armée de Pharaon derrière et par la mer qui est devant le peuple. Vous voyez, la mer, elle représente, elle est toujours le symbole de la mort. Voyez, la mer menace. Dans la mer, il y a des tempêtes, il y a des naufrages, il y a des gens qui peuvent se noyer, etc. Donc la mer est une menace. Et la mer représente la mort. Donc la mort, elle est devant, la mort, elle est derrière, la mort, elle est à gauche, elle est à droite. La mort menace de partout, elle est l'unique horizon du peuple. Et quelquefois, nous pouvons être plongés dans ces ténèbres-là et nous voir que des impasses autour de nous et nous demander, mais que fait Dieu? Eh bien, Dieu ouvre un passage dans la mer, comme il ouvre une brèche dans la mort. Il y a le passage de la mer, cette ouverture qui est faite dans la mer, et cette ouverture du tombeau. C'est une annonce du tombeau ouvert. Et la vie à nouveau jaillit pour le Christ ressuscité, pour le peuple qui est libéré. Ce jour-là, dit l'Écriture, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte. Voyez, nous sommes sauvés. C'est ça que ça veut dire. Nous sommes libérés. Et c'est ce que nous dit notre baptême. On est plongé au milieu de la mer et Dieu ouvre un passage pour nous faire passer de l'autre côté, pour nous ressusciter avec le Christ. Nous ne sommes pas coincés sur la rive de la mort, nous avons franchi les eaux et nous sommes de l'autre côté, sur l'autre rive, sur la rive de la vie. Ça veut dire une chose pour nous, c'est que nous ne sommes pas contraints au mal. Nous ne sommes plus esclaves du péché. C'est ce que disait saint Paul aux Romains. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix. Vendredi, il a été fixé à la croix pour que le corps du péché soit réduit à rien et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort, c'est-à-dire celui qui est baptisé dans le Christ, est affranchi du péché. Il est libéré. Et nous aurons la joie, notamment ce soir, de renouveler notre profession de foi baptismale. Et quel est le signe de cette grande nouveauté que nous apporte le baptême? Vous voyez, c'est peut-être le désir d'appartenir toujours plus à Dieu, de lui remettre notre vie, de faire sa volonté, de suivre Jésus, d'être docile à son esprit. Vous voyez, malgré nos résistances. Je vous parlais tout à l'heure de ce grand renouveau qu'apportait le baptême. C'est-à-dire qu'il y a un avant et un après notre baptême, mais ça ne se fait pas tout de suite, ça se fait et ça se déploie dans le temps comme Dieu a pris son temps dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire du salut. Mais voyez, à partir du moment où on a ce désir qui habite notre cœur d'appartenir à Dieu, de lui remettre notre vie, là est le signe que nous avons en liberté pris option pour notre baptême, pris option pour le faire fructifier, pour en vivre résolument et radicalement. Donc cette deuxième étape, c'est celle où nous sommes sauvés. Et nous entrons dans cette troisième étape où Dieu se révèle dans le livre d'Isaïe comme époux. Oui, par le baptême, tu es une création nouvelle. Par le baptême, tu es sauvé, c'est très bien. Mais par le baptême, tu es épousé. Voyez, notre véritable époux, qu'on soit marié ou qu'on soit célibataire, qu'on soit consacré ou non, c'est Jésus. C'est lui notre époux véritable. Je ne suis pas en train de démarier ceux qui sont mariés, mais voilà, c'est comprendre que nous sommes faits pour cette communion avec le Christ. Ton époux, c'est celui qui t'a faite, dit le livre d'Isaïe. C'est ton créateur. Dieu crée pour sauver et il sauve pour épouser. Nous sommes passés, pardon, par la mort avec le Christ et nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, nous dit saint Paul. Nous vivrons avec lui, nous vivrons en lui, nous sommes épousés, nous avons fait alliance avec lui. Et c'est pour ça qu'après nous être replongés dans cette grâce baptismale, après avoir revêtu l'habit de noces, que ce soit l'habit blanc du baptisé, que ce soit la robe de mariée, vous voyez, nous sommes conviés au festin de noces de l'agneau. L'agneau, c'est qui? L'agneau, c'est Jésus. C'est Jésus sur la croix qui a remplacé, qui s'est substitué à tous ces agneaux qui étaient offerts pour le pardon des péchés. Nous sommes invités à son festin où c'est l'époux lui-même qui se donne en nourriture. Vous voyez, dans cette grande étreinte de la communion, moi en toi et toi en moi, mon corps dans ton corps et ton corps dans mon corps. Vous voyez, pour les personnes qui ne communieront pas au Christ tout à l'heure, ils peuvent communier hein, qui sont empêchés par diverses raisons d'accéder à cette communion eucharistique, ils sont invités à communier spirituellement. Mais c'est la même communion. Vous voyez, c'est Jésus qui le dit dans l'évangile de Saint Jean. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Et nous ferons notre demeure chez lui, nous ferons notre demeure en lui. Il y a cette communion, ces épousailles, ces fiançailles que nous célébrons ce soir pour chacun d'entre nous. Alors ce soir, laissons-nous recréer, sauver, épouser, étreindre par le Seigneur, par sa tendresse, par sa miséricorde. C'est lui qui remplit notre cœur. Et le signe d'un cœur rempli, c'est quand on a encore plus faim, quand on a encore plus soif de l'être aimé. Vous voyez, Dieu comble notre cœur en le creusant davantage. On a chanté tout à l'heure, « Mon âme a soif du Dieu vivant, j'ai soif de toi. » Hein, on reprend exactement les mêmes paroles que Jésus sur la croix vendredi, mais elles sont complètement revisitées, complètement transformées par ce mystère de la résurrection. J'ai soif de toi. C'est ce que dit autrement saint Augustin par cette phrase célèbre, hein, notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. C'est certainement la grâce du cœur nouveau dont nous parle le prophète Ézéchiel, que nous avons lu tout à l'heure. Je vous donnerai un cœur nouveau. Voyez, nous n'aurons d'autre bonheur sur la terre qu'en nous donnant totalement à celui qui nous a tout donné, jusqu'à son propre corps, jusqu'à sa propre vie. Amen.